ouvrir la parole. Premièrement, dans le livre des psaumes, au chapitre 65 et au verset 5. Nous allons faire trois lectures pour introduire ces moments. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis, nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Je le relis. Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence, pour qu'il habite dans tes parvis, nous nous rassasirons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Psaume chapitre 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21 et au verset 22, s'il vous plaît. Apocalypse 21, 22. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Amen. Amen. Seigneur, encore, je continue, Seigneur, de te réclamer ta grâce sur chacun d'entre nous et sur moi-même pour porter quelque chose qui aura du fruit. Je veux que dans chacun d'entre nous, je voudrais qu'il puisse se passer quelque chose. Et si, Seigneur, il y avait un obstacle, je ne voudrais pas que ce soit moi qui le fasse. Alors aide-nous à chacun. C'est vrai, pardonne-nous toutes nos offenses, pardonne-nous tous nos manquements, notre négligence. Nous voulons, nous aussi, être dans ta présence. Nous voulons aimer, Seigneur, être devant ta face. Et nous voudrions tant rester dans ta présence qui nous bénit, qui nous parle et qui nous sauve. Merci encore pour tout ce que tu vas nous dire ce soir. Aide-moi à le dire avec douceur, avec amour, avec sagesse, mais aussi avec force et conviction. Que ton nom soit glorifié et que toute la gloire te revienne. Merci. Merci, Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué un petit peu le point commun entre ces trois textes. Tiens, il y avait quelque chose qui était commun à ces trois textes. Un mot qui est revenu. Le temple, exactement. Il était parlé du temple dans les trois textes. Le premier texte nous parlait de la sainteté du temple de l'Éternel. Le deuxième texte nous disait que quelqu'un demande et il désire ardemment à habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel pour admirer sa gloire, sa magnificence et son temple. Et le troisième texte dit que dans la fin des temps, quand Jésus sera revenu, quand il aura jugé la terre, il y aura une nouvelle ville, une nouvelle Jérusalem qui va descendre des cieux. Et dans cette ville, il n'y aura plus de temple construit parce que Dieu lui-même sera le temple et le Seigneur aussi, l'agneau de Dieu. Amen. Même pas besoin de soleil en plus, puisque Dieu éclairera de par sa présence, sans voile, sans séparation. Dieu éclairera tous les hommes. Que représente le temple dans la Bible? Je voudrais commencer par cela, car Dieu a mis une chose sur mon cœur. En tout cas, j'ai une conviction ce soir pour nous, et je voudrais l'introduire par une réflexion sur le temple. Que représente le temple dans la Bible? Le temple, premièrement, ce qu'il représente, c'est la présence de Dieu. Il nous parle de la présence de Dieu. Deuxièmement, le temple nous parle de la gloire de Dieu. Troisièmement, le temple nous parle de l'Église. Quatrièmement, nous verrons ces quatre choses ce soir, le temple nous parle de service. J'aimerais qu'on s'arrête sur ces quatre choses. Il y aurait d'autres choses à développer, à voir, mais on va se concentrer sur ces quatre premières choses qui vont nous aider peut-être à conclure sur quelque chose que j'ai vraiment reçu, je crois, de la part du Seigneur pour quelqu'un et je crois pour plusieurs parmi nous ce soir. Le temple nous parle de la présence de Dieu. Dans Habacuc, chapitre 2, verset 20, je vous le lis, il est écrit « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Le temple nous parle de la présence de Dieu. Dieu avait prévu qu'il soit fabriqué ces choses, ce temple, ce tabernacle aussi, pour que vraiment sa présence soit manifestée au peuple, pour qu'aux yeux du monde entier même, eh bien, il soit conscient que Dieu existe. Le temple nous parle de la présence de Dieu. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Vous connaissez cette histoire. Il répondit, « Me voici. » Samuel était un jeune garçon consacré à l'Éternel, prêté à l'Éternel toute sa vie, comme le dira sa maman. Et il sert Dieu dans le temple, au service et sous le commandement, sous l'autorité d'Élie. Et il est là, alors qu'il dort, il est dans le temple, d'un coup Dieu lui parle. Le temple vraiment nous parle de la présence de Dieu. Et je ne sais pas comment vous venez dans cette maison de l'Éternel, la maison de Dieu, puisque c'est un lieu ici qui est consacré à Dieu. Pour lui, on ne veut surtout pas en faire une salle des fêtes. On ne veut pas qu'il y ait de choses pour le monde, de choses humaines ou charnelles dans ce lieu. On voudrait vraiment que ce soit un lieu consacré à l'Éternel. Je suis sûr que ceux qui ont bâti ce lieu, qui l'ont aménagé, qui l'ont préparé pour accueillir les moments de culte, pour accueillir les réunions, comme Monsieur de Dieu, les frères de Dieu et d'autres, peut-être qu'ils sont encore parmi nous, qui ont vu toutes ces choses, vous l'avez fait avec un cœur, vraiment ce zèle, dire je veux vraiment travailler pour que ce lieu devienne, alors qu'il était un simple garage, qu'il devienne une maison de Dieu, une maison de prière. Une maison consacrée. Comment est-ce qu'on le vient? Est-ce qu'on s'attend, peut-être, parmi bien la communauté, parmi les frères et sœurs, peut-être à venir dans la présence de Dieu? Vous allez me dire, oui, mais aujourd'hui, on est dans le temps de la grâce, Jésus est venu, est mort sur la croix, Dieu est partout, etc. Oui, mais je crois qu'il y a une grâce particulière lorsqu'on se rassemble dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord avec moi? On est conscient de cela? Lorsque deux ou trois s'accordent, je suis au milieu d'eux. Lorsque deux ou trois se rassemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et le Seigneur Jésus veut vraiment manifester sa présence et il y a une qualité particulière, peut-être supérieure, lorsqu'on se rassemble ensemble d'un même cœur pour louer Dieu, d'un même cœur pour intercéder, d'un même cœur pour écouter un enseignement sur le Seigneur et sa présence se manifeste. Réalisons-nous que Jésus est au milieu de nous, que son esprit, par son esprit, il est là, qu'il est au milieu, peut-être mon père aimait cette expression, il disait « il passe au milieu des rangs ». Ça nous donne une petite image, c'est très humain peut-être, mais que Dieu est là, il est devant vous, à côté de vous, et qu'il aimerait poser ses mains bénissantes pour vous toucher ce soir. Vous croyez cela? Que Dieu peut me toucher ce soir? Moi je suis venu dans cette attitude, en plus j'y ai pensé en préparant ce message, mais que Dieu veut toucher ma vie, que Dieu veut vivifier ma vie, que Dieu veut me donner un nouvel élan, un nouveau cœur pour lui, que Dieu veut peut-être ôter ce qui me bloque dans ma vie spirituelle. Dieu veut agir dans mon cœur, dans ma vie entière, Dieu veut faire de moi un meilleur époux, Dieu veut faire de moi un meilleur père, Dieu veut faire de moi un meilleur pasteur, etc. etc. Il est présent pour travailler ce soir. Et chaque fois qu'on rentre dans ce lieu, pour se réunir en son nom, il peut se passer quelque chose parce qu'il est là. Chaque fois qu'en tant que couple, on s'unit vraiment pour prier ensemble, ce lieu devient une maison de prière et Dieu est présent au milieu de nous. Jésus se manifeste par son esprit pour toucher nos vies. Ce n'est pas juste les murs qui sont sanctifiés, qui sont saints, c'est vraiment parce qu'on en fait un lieu de culte, un lieu d'adoration, un lieu de prière. Mais Dieu et dans son temple, dans la parole de Dieu, quand on parle de temple, on parle d'un Dieu qui devrait être présent, qui voudrait être présent. Bien sûr que des fois, le temple, il a été remplacé, la présence de Dieu a été remplacée par la présence des idoles. Un temple ne reste jamais vide, disait Monsieur Gault dernièrement. Un temple n'est jamais vide. Et à y réfléchir, c'est vrai. C'est soit il y a Dieu, soit il y a les idoles. Qu'ici, il y ait le Seigneur Jésus. Amen. Mais Dieu, lorsqu'il a fait construire le temple, lorsqu'il a ordonné tout cela, c'était pour que sa présence se manifeste. Deuxièmement, le temple nous parle de la gloire de Dieu. Êtes-vous satisfait de ce que vous vivez avec le Seigneur? Ou avez-vous encore soif de découvrir toutes les grâces qu'il voudrait répandre sur nous en ouvrant les écluses des cieux? Croyez-vous qu'il y a plus de Dieu pour nous? Croyez-vous qu'il y a des charismes en abondance de la part du Seigneur qu'il voudrait répandre sur chacun d'entre nous? Des grâces, des guérisons, des miracles, des délivrances. Croyez-vous encore à ces choses? Oui. Si on a soif de vivre ces choses, Dieu va nous montrer comment, lui laisser le chemin libre pour faire ces choses. Peut-être que Dieu est attristé, le Saint-Esprit est attristé dans nos vies déjà, parce qu'on n'est pas à l'écoute, on n'a pas soif déjà, et peut-être aussi parce qu'on aime trop certaines choses qui l'empêchent d'approuver nos vies, de nous utiliser, ou tout simplement de se manifester. Mais je crois qu'il y a un réveil possible pour notre temps, pour ma génération, et pour cette assemblée de Sainte-Agne. Je crois que Dieu n'a pas choisi que quelques endroits où il veut se manifester, puis les autres on attend, il y aura une saison particulière. Je crois que Dieu dit aujourd'hui. Aujourd'hui. Le temps des miracles n'est pas passé. Le temps de la puissance de Dieu ne passera jamais. Le temps de sa grâce n'est pas passé. Et je crois que jusqu'à ce que Jésus revienne, il y a pour nous vraiment une occasion de travailler sur la terre. Et jusqu'à ce que Jésus revienne pour juger la terre et instaurer son règne de paix, il y a un temps de grâce. Bien sûr, la patience de Dieu a des limites. Profitons tant qu'il est encore temps et tant qu'on a encore du temps pour le faire. Lorsque, dans Deutéronome chapitre 5, verset 13, lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer, pour louer l'Éternel, firent retentir des trompettes, les cymbales, les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. Je rappelle qu'ils étaient 44 000 musiciens. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Jésus n'était pas mort sur la croix, et malgré toute leur sanctification, leur purification, les sacrificateurs n'ont pas pu rester dans la maison de l'Éternel parce que la gloire de l'Éternel est descendue. Ils ont dû sortir, ils pouvaient même plus le servir à l'intérieur. Imaginez-vous ce temple qu'on a vu tout à l'heure. Un temple un peu comme ça, d'un coup la inauguration du temple de Dieu, du temple de Salomon, la gloire de Dieu descend, les hommes n'ont pas pu rester dedans. Et nous pouvons être remplis du Saint-Esprit, c'est exactement la même chose, c'est la présence de Dieu qui vient, la gloire de Dieu qui vient dans notre vie, qui se manifeste, et Dieu voudrait qu'on soit constamment renouvelé, rempli du Saint-Esprit, et c'est quelque chose de possible, à nous d'y avoir soif. Mais il ne pouvait pas, la gloire de Dieu, tellement elle était forte, tellement elle était grande. Apocalypse chapitre 15, verset 8, le temple, pareil, plus tard dans le futur, ce sera pareil, le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et sa puissance, et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux et les anges fussent accomplis. Il y aura quelque chose qui va se passer, on ne le comprend peut-être pas en son entier, on ne peut s'y faire qu'une image, mais il va venir un temps où la gloire de Dieu va descendre, et puis on ne pourra même pas entrer dans le temple jusqu'à ce que Dieu ait accompli tout ce qu'il a prévu dans sa sagesse de faire. La gloire de Dieu. Puissions-nous avoir soif de vivre dans notre vie la gloire de Dieu. Quelqu'un manque d'un travail, Dieu peut manifester sa gloire, ouvrir des portes qui sont fermées et vous permettre d'avoir un travail. Quelqu'un est-il malade? Le Seigneur peut faire la même chose, etc. On pourrait multiplier toutes les manières dont Dieu manifeste et exerce sa gloire. Révèle sa gloire. Troisièmement, le temple nous parle de l'Église que nous formons. Il y a des textes très très révélateurs qui expliquent très bien cela. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, on va le lire. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 2 Corinthiens chapitre 6 verset 16. Pour le plaisir de lire la parole, on va lire à partir du verset 14 pour avoir le contexte. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ça c'est un des textes qui nous montre qu'il ne faut pas choisir un époux ou une épouse, ou en tout cas pas fréquenter, ne pas créer d'alliance avec quelqu'un qui n'est pas au Seigneur. Pourquoi? Parce que ça risque de nous éloigner de Dieu. Et que Dieu, il voudrait vraiment qu'il y ait une séparation pour nous bénir et pour habiter au milieu de nous. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et il sera mon peuple. » Une autre lecture, je vous la fais dans Éphésiens chapitre 2, verset 21. « En Christ, tout l'édifice bien coordonné s'élève comme un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Il y a eu le tabernacle. Il y a eu le temple de Salomon, il y a eu plusieurs reconstructions, il y a eu une destruction, il me semble, en 70, après la naissance, c'est ça? En 70. Et aujourd'hui, après, depuis, il y a aussi, avant la destruction, il y a eu la création du temple spirituel, l'Église, à partir du jour, je le crois, de la Pentecôte. jour de la Pentecôte, le Seigneur a commencé à créer une église et a fait un nouveau temple, un temple spirituel, pour que nous devenions, nous qui sommes en Jésus-Christ, le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, ce nouveau temple qui n'est pas fait de pierre physique, mais qui est fait de pierre spirituelle. Vous pouvez regarder votre voisin et le considérer, le voir comme une pierre, s'il est au Seigneur, bien sûr, s'il est engagé, s'il est toujours avec Dieu, et si Dieu peut approuver sa vie, en tout cas. On est, nous, l'Église du Seigneur Jésus-Christ, non pas parce qu'on est les meilleurs, non pas parce qu'on est parfait, non pas parce qu'on est sans péché, non pas parce qu'on ne se manque jamais, non pas parce qu'on en sait plus que les autres, mais parce qu'on est enfant de Dieu sauvé par grâce, eh bien on est le temple de Dieu du Saint-Esprit. Et personne ne peut dire « je suis le temple seul ». Là, ça nous parle d'unité. Il dit « nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous sommes le temple de Dieu ». Et puissions-nous être unis du début à la fin de notre vie, unis dans l'obéissance à Christ, unis dans la foi, dans la grâce de Dieu encore, parce que le diable veut nous voler cette foi et détruire cette foi. Unis dans les projets que Dieu approuve, unis dans la retenue que l'on a dans ce que Dieu désapprouve, unis pour que la gloire de Dieu et la présence de Dieu se manifestent au milieu de nous. L'Église, le Temple, nous parle aussi de ce que Dieu avait prévu de toute éternité, rassembler de toute nation des hommes, des femmes, pour en faire une épouse à son fils. Dans le livre des Proverbes, j'ai lu qu'une épouse, c'est une couronne pour le mari. Jésus est le roi des rois, il lui faut une couronne, et cette couronne, c'est nous. Nous sommes la couronne de Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Cette image, toute simple, Dieu voulait couronner son fils et il lui a prévu une épouse, l'Église, pour couronner son fils. Et tout sera pleinement accompli lorsque nous serons enlevés avec Jésus-Christ, lorsque tous ceux qui doivent faire partie de son Église auront été rassemblés, sauvés, rachetés et seront enlevés avec lui. Et dans le ciel, on va vivre quelque chose d'incroyable, les noces, et tout sera parfait. Dieu aura couronné son fils, il est couronné de gloire déjà, puisque l'Église existe déjà, mais il y aura quelque chose d'extraordinaire, comme quelque chose d'accompli, de parfait, lorsque nous serons enlevés, et nous serons avec lui pour l'éternité, à régner, à vivre dans sa présence, et tout ce que Jésus et Dieu a prévu dans sa science. Quatrièmement, le temple, je vois que certains prennent des notes, on voit plus certains tout, le temple qui nous parle de service. Tout ce qu'on lit presque dans la parole, tout le temps on voit le temple, le temple. Alors à un moment on le construit, on commence à servir, on commence à offrir des sacrifices, on commence à amener du parfum, on commence à mettre les pains, on commence à faire toutes sortes de choses. Et toutes les histoires tournent autour du temple. On en part, on en revient, l'arche est volée, il y revient, etc. À chaque fois ça tourne autour, 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 jusqu'à ce que ça en vienne à l'église. Et là on ne parle plus du temple presque, juste ils allaient tous les soirs à l'heure de la prière au temple, pour la prière, mais sinon... Le temple, c'est l'Église. Et là, tout tourne autour de l'Église. Et Paul nous parle combien il souffre les douleurs de l'enfantement pour que Christ soit formé dans le cœur de chaque chrétien. Combien les églises lui créent des soucis, malgré qu'il est en péril sur les mers, dans les déserts, etc. Il est persécuté, et pourtant il conclut sur disant « Mais qui est faible que je ne sois faible? Qui tombe que je ne brûle? Et encore tous les soucis que me donnent les églises, etc. » Paul est bouillant, et tout ce qu'il écrit, c'est autour de l'Église. Il veut que l'Église, ce nouveau temple, soit parfait, qu'il y ait un service ordonné. Il donne des conseils avec les diacres, avec les évêques, avec les pasteurs, avec les prophètes, etc. Il tourne tout cela et il parle jusqu'à l'aboutissement. Et Jean conclut sur l'Église qui est enlevée, ce temple, et puis en haut, il n'y aura même plus de temple, puisque Dieu sera le temple. Quelque chose d'extraordinaire. Tout tourne dans la parole de Dieu, autour de la présence, autour de la gloire de Dieu, autour des rachetés, de sa grâce et de son peuple qu'il avait autrefois désigné et qui représentait un peu l'Église aujourd'hui, qui peut être un peu comparée. Et tout parle aussi d'un service à Dieu. Car si nous sommes sauvés, c'est pas pour attendre juste l'enlèvement et rien faire, c'est pour servir à sa gloire. Tu l'adoreras et tu le serviras lui seul. Et dès le départ, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Vraiment, il y a vraiment ce désir et cet encouragement à servir Dieu. Servir comment? Eh bien, premièrement, par le respect des choses de Dieu. L'Éternel est dans son Saint-Temple, on l'a lu, que toute la terre danse devant lui. Non. Que toute la terre fasse des beaux cantiques devant lui. Non. Premièrement, que toute la terre fasse silence devant lui. Parce qu'en vrai, personne ne mérite de se tenir devant lui. Et juste d'écouter sa voix qui nous dit « Je t'aime, j'ai donné mon fils, je te pardonne, deviens mon enfant ». Tout à l'heure, on accueillait une jeune fille qui était toute nouvelle à la réunion qu'on a eue avec l'association Revive pour les filles de la rue, une fille toute nouvelle qui n'a pas connu sa mère qui est morte le jour de sa naissance. Elle n'a pas connu beaucoup son père puisqu'il est mort quand elle avait 10 ans. Et elle a vécu toutes sortes de choses difficiles dans une famille et de ce qu'on a compris, elle a vraiment souffert. Elle s'est mariée, l'homme a divorcé. Après avoir eu 3 enfants aujourd'hui, elle a des jumelles, elle a encore ses jumelles avec elle, et qui ont 4 ans, elle les élève toute seule, elle est en France, sans papier, etc. Et quand on lui a parlé, on a conclu, et M. Galifot a rendu son témoignage, que sa maman, il l'a jamais connue, son papa n'a pas vécu avec lui. Je crois que sa maman est morte à 7 ans et demi, son papa est parti, n'a pas vécu avec lui, et du coup il s'est retrouvé orphelin à 7 ans et demi. Et à 9 ans et demi, lorsqu'il a écouté pour la première fois l'évangile, il a fait cette prière, il a dit « Seigneur, j'ai pas de mère, j'ai pas de père ». Tu seras mon père. Et cette jeune fille se réjouir. Mais vraiment, on aurait vu la joie sur son visage. Vous auriez vu, elle était contente. Et on lui a dit, mais Dieu peut être ton père. Parce que Jésus a donné sa vie pour toi. A versé son sang aussi pour toi. On lui a parlé de la croix. Vous auriez vu son visage. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir. Elle s'appelle Esther. Vous pouvez prier pour elle. Étoile, ça veut dire. Que vraiment, Dieu puisse bénir d'autres âmes. Et que nous puissions servir Dieu dans ce but, avec respect. Première chose, le respect. Deuxièmement, le service le plus important, la prière. Peut-être le plus dur des fois quand on n'en a pas l'habitude, quand ça n'est pas encore une discipline. Mais au début, c'est très dur de se mettre à la prière. Pourquoi ? Parce que ça nous paraît long. Et parce qu'on ne sait pas quoi dire. Une fois qu'on a dit les 2-3 sujets qu'on avait, on ne sait plus quoi dire, etc. Mais plus on en prend l'habitude, plus on s'exerce à la prière, plus ça devient naturel, plus ça devient un mode de vie, plus ça devient un état d'esprit. Et à chaque instant, n'importe où, qu'il y ait du bruit, qu'il y ait du silence, qu'on soit dans un bus, qu'on soit dans un métro, dans la voiture, à la maison, peu importe où, on peut prier le Seigneur. Maman, lorsque mon père est rentré dans le ministère, il ne savait pas parler. Aucun diplôme. Difficulté à parler. Problème d'ouïe que Dieu a guéri. Et donc, difficulté à communiquer avec les autres. Dans les mots qu'il disait, il n'avait pas beaucoup de vocabulaire. Et lorsqu'il prêchait, maman avait honte. Et elle s'enfuyait dans les toilettes de l'église pour supplier Dieu d'aider papa. Pendant toute la réunion, elle allait dans les toilettes et elle suppliait Dieu. Elle dit « Seigneur, fais-lui grâce. Fais-lui grâce. » Et je crois qu'il n'y a pas d'endroit pour intercéder. Et si quelqu'un se retrouverait dans une prison, dans une cellule, Dieu est avec lui, sa présence. Parce qu'on est le temple, si on croit en Dieu, si on a fait la paix avec lui, et si on l'aime de tout notre cœur pour le servir. La prière, service important. Tous les autres services, s'ils se font sans prière, on va être découragé, on va être frustré. Le diable et la vie va faire qu'on va se retrouver dans des circonstances, on sera peut-être à un moment fatigué, eh bien irritable, irrité. Je fais le ménage, oh mais il y a des taches de larmes par terre. On va même plus réaliser que c'est bon signe, c'est que quelqu'un a pleuré peut-être sur ses péchés. Ou quelqu'un avait besoin du Seigneur, il était au bon endroit au bon moment, dans la présence de Dieu, dans la communion fraternelle. Et toutes sortes de choses qui vont faire, mais si je prie, si quand je vais pour faire le ménage, je dis Seigneur, peut-être que les toilettes n'auront pas été respectées. Je me souviens, on accueillait des SDF et il y avait du pipi partout. Ça sentait mauvais, aucun respect, mais peut-être aucune conscience des choses de Dieu. Ils avaient besoin que le Seigneur se révèle à eux. Et quand on passait derrière, c'est vrai que ce n'était pas facile des fois. Mais si on avait cette joie d'avoir vu une âme nouvelle venir à l'église, les toilettes, on pouvait les laver 10 fois, même si ça sentait mauvais, ce n'était pas grave. Pendant la réunion, des hommes se faisaient pipi dessus puisqu'ils étaient drogués et alcoolisés. Mais quand on aime l'œuvre de Dieu, quand on sert et qu'on a prié pour que Dieu nous donne la force de résister à tous les découragements, alors je vais pouvoir surpasser ces choses, je le crois. Et si je prie dans mon couple pourra être aidé lorsque ça ne va pas. Je fais des forces pour le jour où il y a des difficultés. N'attendons pas les difficultés pour se mettre à prier. Dès aujourd'hui, remplissons notre besace, notre sacoche de pierres, comme David qui a été intelligent, qui a ramassé 5 pierres pour les 5 géants qu'il va rencontrer dans tout son ministère, sa royauté. Goliath et 4 frères. Plus tard, certains, il va les tuer lui. Certains, ça sera des soldats sous ses ordres, en tout cas des chefs sous ses ordres. Mais en tout cas, il y avait 5 pierres pour 5 géants, comme par hasard. Pourtant, il n'y en avait qu'un devant lui. Et je pense qu'il était sûr, il avait la foi pour l'avoir du premier coup. Mais il en a pris 5. C'était sûrement conduit, c'était peut-être prophétique. Je le crois en tout cas. Dans Romains 12, il est dit de servir aussi par le sacrifice de notre propre vie et de notre propre corps. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Hébreux 13, 15 et 16 dit « Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » La bienfaisance et la libéralité, c'est des sacrifices aussi que Dieu agrée, autant que la louange, autant que mon propre corps pour le servir. Servons Dieu de toutes ces manières, le respect, la prière, toutes sortes de sacrifices, de bon cœur. Oui, ça coûte, mais c'est pour la bonne cause. Amen. Je lisais tout à l'heure des citations que M. Galifot m'a laissées. Il y en avait une qui disait « Oui, Dieu donne Jésus laisse des fardeaux, mais il donne aussi des épaules. » C'est bien dit, non? Le Seigneur laisse des fardeaux, mais il donne les épaules pour les supporter. Et qu'importe la maladie, qu'importe l'épreuve qu'on traverse ou le fardeau qu'on porte, Dieu nous donne la grâce à la bonne mesure pour supporter ce que Dieu nous a confié et pour le mener à bien. Amen. En conclusion, et j'en viens à ce que j'ai vraiment sur le cœur, dans Actes chapitre 3, versets 1 et 9, on peut le lire. Actes chapitre 3, versets 1 à 9. Un homme qui n'a pas le droit de rentrer dans le temple parce qu'il est infirme, boiteux de naissance. C'est pas sa faute. Il est né comme ça, il n'a pas droit de rentrer dans le temple. Cet endroit où il y a la présence de Dieu, cet endroit où il y a la gloire de Dieu, cet endroit où il y a l'Église qui forme l'Église, cet endroit qui parle aussi de servir, tout ça, il en est exclu. C'est imagé bien sûr par le temple physique. Et il est écrit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, ça y est, il peut, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Amen. La vie d'un homme va être changée, transformée, parce qu'il va se passer quelque chose d'incroyable. Pierre et Jean sont là, ils vont à l'heure du temple, comme à l'habitude. Et ce jour-là, je pense que ça faisait un bon moment qu'il était là, cet homme, mais ce jour-là, il le remarque. Ce jour-là, cet homme peut-être fait un signe particulier. Il s'arrête sur lui, il le regarde, il fixe le regard. Ils sont attentifs à sa vie, ils sont attentifs à son sort. Ils réfléchissent peut-être et ils disent « Regarde-nous ». Et il s'attend à recevoir de l'argent, quelque chose, pour pallier quelque temps à sa difficulté. Mais eux, ils ont une solution meilleure. Je n'ai ni argent ni or, comme Jésus avait dit de le faire. Et il dit, par contre, ce qu'on a, c'est le nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Pas prends ton lit, j'allais dire, prends ton lit, ça c'est une autre fois. Lève-toi et marche. Il le saisit la main droite, il le lève au même instant. Les chevilles, les pieds et les chevilles devinrent fermes. Et puis se lever, d'un saut il fut debout. Ça n'a pas pris longtemps. Hein. Et puis les forces d'un coup, vous avez vu, nous des fois, pour se remuscler parce qu'on n'a pas marché pendant un temps, hospitalisé ou quoi, c'est difficile. D'un saut, Dieu quand il fait quelque chose, il le fait à merveille. Et d'un saut il se lève, il se met à marcher, sauter, louer Dieu, il peut rentrer dans le temple, il était infirme, il n'avait pas le droit. Et là, la première chose qu'il peut faire et qu'il va faire, c'est de rentrer dans le temple, de louer Dieu de tout son cœur au point que tout le monde le voit. Tout le monde le voit et tout le monde l'entend. Ce soir, j'ai vraiment quelque chose à dire. Je crois de la part du Seigneur, c'est peut-être que quelqu'un ne peut pas goûter à la présence de Dieu. Ce temple qui nous parle de la présence de Dieu, peut-être quelqu'un, à cause d'une affaire qui est là depuis sa naissance, ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Parce qu'on est tous pécheurs. Et dans la présence de Dieu, ne peut en jouir que celui qui a fait la paix avec Dieu. Et on est tous nés pécheurs. On est tous nés pareils. Peut-être que quelqu'un vient aux réunions depuis un moment. Il lutte avec Dieu, il ne voit pas qu'est-ce qu'il a fait de mal, il ne voit pas qu'est-ce qu'il avait à se reprocher. Ce soir, Jésus te demande sérieusement de ne pas tarder, de ne pas jouer avec la vie, mais de régler l'affaire du péché pour pouvoir rentrer dans le temple de Dieu, c'est-à-dire dans la présence, pas juste le lieu, tout le monde peut y rentrer, on est d'accord, mais rentrer dans cette famille, en faire partie, goûter à la bénédiction de Dieu, goûter à cette paix, à cette joie que Dieu veut donner. Peut-être quelqu'un croit qu'il est sauvé, peut-être que quelqu'un est là, il croit qu'il est en règle, il vient régulièrement, peut-être qu'il prie, etc., mais il sent dans son cœur qu'il n'a pas une vraie joie, il n'a jamais goûté à cette paix dont on parle, à cet épanouissement. Le Seigneur Jésus dit, c'est parce que tu n'as pas reconnu que tu étais vraiment dans la nécessité d'être secouru par Jésus-Christ, lui qui a payé pour tes péchés. Parce que toi aussi, mon frère, ma soeur, mon ami plutôt, toi aussi, tu en as besoin. Qu'importe si à tes yeux les péchés sont petits, ces petits péchés t'empêchent de faire partie de ceux qui sont bénis en Christ, de faire partie de cette Église et de goûter à la présence de Dieu. Peut-être quelqu'un aussi, tout simplement, voudrait tellement être rempli du Saint-Esprit, rempli de cette présence, rempli de cette force. Il y a quelque chose qui est là, qui l'intimide, qui le bloque, peut-être une culpabilité, quelque chose qui s'est passé plus bien avant, je ne sais pas. Mais le Seigneur voudrait dire, viens, demande au Seigneur de te délivrer de cette culpabilité, parce que qui peut être encore dans la culpabilité s'il croit vraiment au pardon de Jésus-Christ? Et Dieu pardonne tout, et Dieu efface tout. Et peut-être quelqu'un dit, mais si vous saviez d'où je viens, si vous saviez depuis ma naissance ce qu'on m'a dit, si vous saviez depuis ma naissance ce que j'entends, si vous saviez depuis ma naissance ce qu'on m'a fait subir, qui a souillé tout mon être et je n'arrive pas à en être délivré, je suis pas épanoui, je me sens pas bien dans la présence de Dieu, parce que toutes ces choses m'habitent et m'obsèdent, et je voudrais tellement en être délivré. Au nom de Jésus-Christ, tout péché est effacé. Au nom de Jésus-Christ, d'après ce qu'il a dit lui-même, d'après ce qu'il a laissé comme enseignement, je peux dire que quiconque ce soir vient devant le Seigneur pour être lavé, pour être libéré de toute culpabilité, il peut le faire. Il peut l'être, il peut l'obtenir par grâce, par le moyen de la foi. Croyons au Seigneur Jésus. Deuxième chose qu'on a vue, c'est que ce temple nous parlait de la gloire de Dieu. Et quelqu'un peut-être entendra ce message, je ne sais pas s'il sera mis sur Internet ou quoi, mais peut-être quelqu'un sera chez lui, chez elle, et privé de la gloire de Dieu, et privé en tout cas de venir à l'église, et privé de venir dans le temple, et ne goûte pas la gloire de Dieu. Il doute qu'il puisse être guéri, il doute qu'il puisse mériter, etc. Qu'importe qui que nous soyons, la gloire de Dieu, il veut la manifester. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de ses détresses. Et quelqu'un ne goûte pas à la gloire de Dieu par doute. Peut-être quelqu'un ne goûte pas à la gloire de Dieu parce que, eh bien, il est bloqué à la maison. Peut-être qu'il est oppressé. Il y a toutes sortes de choses dans sa vie, des menaces sur sa vie. Ne te convertis pas, ne te donne pas à Jésus-Christ. Tu verras, on va te frapper, on va te tuer, etc. J'aimerais vous dire que c'est au-delà d'un local, c'est dans l'endroit où on est maintenant que Dieu veut nous toucher, venir nous délivrer de toute peur, de toute crainte, nous délivrer d'une maladie, nous guérir. Dieu peut le faire n'importe où. Et Dieu guérit encore aujourd'hui. Et quelqu'un peut-être voudrait goûter à cette gloire. Ouvrez votre cœur, croyez au Seigneur Jésus. Jésus guérit encore aujourd'hui. Et il manifeste sa gloire là où on l'invite à venir. Tout simplement avec le cœur d'un enfant, croyant que Dieu est partout et qu'il peut intervenir là où on l'invoque. Et si quelqu'un était seul, dans la prière, je crois que Dieu peut débloquer des situations pour qu'on puisse rencontrer une autre personne avec qui parler. Je me souviens d'une personne dans un bâtiment qui était seule sur sa vie. Il y avait des menaces parce qu'elle faisait partie d'une famille où il y avait une religion qui était très très oppressante. Et si elle disait qu'elle avait la foi, elle se faisait frapper, elle avait peur et disait « Seigneur, si je pouvais partager ma foi avec quelqu'un ». Elle avait découvert le Seigneur par un évangile et elle était seule. Et dans la prière, elle a fait « Seigneur, donne-moi s'il te plaît de trouver quelqu'un ». Et dans ce même bâtiment, Dieu a permis qu'il y ait une famille ou une personne, une autre personne chrétienne qui puisse partager sa foi. Et elle a pu goûter à cela. Dieu délivre, Dieu libère. S'il y avait une malédiction sur la vie de quelqu'un, en Afrique, ça se voit beaucoup. Les filles de la rue, on les voit beaucoup oppressées, la peur, parce qu'on leur dit, si tu reviens pas, si tu te prostitues pas, tu verras ta famille. Eh bien, j'ai fait des malédictions sur elles. Il y a de la sorcellerie sur elles. Tu verras. Et elles ont peur, elles sont angoissées. Au nom de Jésus-Christ, toute malédiction est brisée quand on invoque la grâce et le secours du Seigneur Jésus. La troisième chose qu'on a vue, c'est que le temple de Dieu, c'est l'Église. Nous parle aussi de l'Église. Et quelqu'un croit qu'il peut sympathiser. Quelqu'un peut-être croit qu'il peut faire partie de l'Église, du corps de Christ, sans s'engager pleinement avec le Seigneur. Peut-être que quelqu'un dit « Non, moi, j'ai pas besoin du baptême. Le baptême, ça sert à rien. Le baptême, en tout cas, c'est pas tout de suite, c'est plus tard quand je serai parfait. » On sera jamais parfait. Ça sera jamais le temps. Et je crois que le Seigneur Jésus, bien sûr, il n'a pas dit que le baptême sauvait, ça c'est clair. Mais il a dit, engagez-vous avec moi. Engagez-vous publiquement. Faites-le. Peut-être que quelqu'un est dans une circonstance où il ne peut pas, il n'a pas l'âge, il doit être soumis à ses parents. Dieu connaît la situation, ce n'est pas un problème. Peut-être que quelqu'un est dans un pays, je ne sais pas, il n'y a personne avec lui pour partager cela, ou une situation difficile, le brigand sur la croix n'a pas eu le temps de se faire baptiser, et Dieu, Jésus lui a quand même dit aujourd'hui, tu seras dans le paradis avec moi. Mais, si on en a l'opportunité, pourquoi ne pas s'engager avec le Seigneur? Pourquoi pas faire ce pas de foi aussi? Dire, Seigneur, je n'ai pas confiance en moi, je sais que j'en aurai pas la force de tenir cet engagement, mais je veux le faire. Parce que je te fais confiance à toi. Et je sais que malgré toutes les difficultés, toi, tu prendras soin de moi. Et je crois qu'il faut, au bout d'un moment, faire ce saut, faire ce pas de foi et s'engager pleinement avec le Seigneur Jésus. Ne pas avoir honte, mais lui donner sa vie au point, et bien de s'engager avec lui par les eaux du baptême. Et le temple, un service. Est-ce que vous croyez que dans une assemblée où il y a 400 membres sur le listing, Dieu ne peut pas appeler quelques personnes pour être missionnaires? Quelques personnes pour entrer dans le service de Dieu, quelques personnes pour devenir anciens dans une église ou en tout cas se préparer pour cela, quelques personnes pour se dire mais moi je vais me lever, mais je sais qu'il y a tellement de travail, du travail on aura toujours. Si on vous exhorte des fois à rentrer dans un service, vous inquiétez pas, c'est pas parce que toute l'église se lèverait qu'il y aurait plus de travail dans la ville de Toulouse. Il y a de la place pour tout le monde. Dans le ciel, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de chômage. Mais par contre, il y a besoin d'ouvriers car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et cette prière que Jésus a demandé à qu'on fasse, elle est encore valable aujourd'hui. Et dans cette assemblée, n'y aurait-il pas quelques hommes qui soient appelés au ministère de pasteur pour s'occuper d'une église dans un pays en France où il y a plus d'églises que de pasteurs? N'y aurait-il pas quelques femmes, quelques hommes qui soient appelés à partir en mission, aider sur le champ missionnaire en tant que professeur d'école ou autre chose, peu importe ce que le Seigneur sait qu'il a dit, qu'il a choisi pour vous? N'y a-t-il pas quelques appels sur les vies? Combien de temps faudra-t-il attendre pour que vous puissiez obéir à Jésus et partir? Les hommes de Dieu qui ont écrit des livres, dont on a écrit des livres sur leur biographie, passaient dans les églises et disaient, un en particulier disait, voilà, on a besoin de 1000 personnes pour s'engager en mission en Chine. Qui veut venir? Et il s'adressait au groupe de jeunes. Il leur disait, mais vous savez, il y a besoin de monde là-bas. Je voudrais 1000 personnes. Qui veut venir? Au début, ça a commencé 50, etc. C'est arrivé un moment. Et des jeunes, ils passaient pas des mois avant de partir. Ils disaient, moi, je veux. Ils ressentaient l'appel devant la face de Dieu, tout simplement. Ils disaient, par ta grâce, Seigneur, j'y vais. Et le Seigneur a pu bénir une œuvre qui était conduite, bien sûr. On ne rentre pas dans le service de Dieu si notre vie n'est pas en règle avec Dieu. Bien sûr, on ne rentre pas dans le service de Dieu si on n'est pas sûr de l'appel de Dieu. Il faut un temps, je crois, pour que Dieu confirme son appel. Mais pourquoi pas, peut-être partager ça avec un pasteur, un frère ancien, et dire, vous savez, je me pose des questions. Prions ensemble, aidez-moi, conseillez-moi. Que dois-je faire pour me préparer si Dieu m'appelle, si c'est confirmé? Parce que je peux vous dire, il vaut mieux se préparer avant, plutôt que de rentrer au dernier moment, parce qu'il faut le faire. Et si j'avais su, si j'avais réalisé vraiment avant, peut-être que j'aurais pris plus de temps pour me préparer. Pour mieux lire la parole, pour mieux prier, pour mieux apprendre à obéir à Jésus-Christ. Et ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on doit le faire. Mais quand on sait qu'on a un appel sur sa vie, il faut se préparer à ces choses. Et plus on le fait tôt, plus le jour où on s'engage et on part, et on rentre dans ce ministère, plus on est prêt. Je prends du temps pour faire cet appel, mais pour vous partager ces choses, mais je crois que c'est sérieux. Notre pays, Dieu m'a appelé pour la France. L'appel qu'il y a sur ma vie, c'est pour la France. Et je sais que dans mon pays, il y a un besoin immense. On n'est plus dans l'époque où tout le monde est catholique. On n'est plus dans l'époque où tout le monde se dit chrétien. On est dans une époque misérable. Et Dieu me parle à moi pour que je sois à la place qu'il me demande, à genoux devant lui. On l'a chanté, Sainte Cohorte, pour celui qui lutte à genoux et la victoire. Et moi aussi, je me remets en question et que chacun d'entre nous puisse réaliser qu'il y a un travail à faire pour le Seigneur. Il y a un service et peut-être quelqu'un depuis sa naissance est lésé pour cela aussi. Peut-être que ce n'est pas pour la naissance, après tout, ce n'est pas grave. Peut-être que quelqu'un est bloqué, un blocage. Suppliez Dieu de vous aider à vous délivrer de ce qui vous empêche de vous lever. Mais levez-vous pour le Seigneur. Vous êtes un homme, c'est bien. Il y a besoin d'hommes. Vous êtes une femme, c'est bien. Vous êtes jeune, c'est bien. Vous êtes âgé, c'est très bien. Il y a besoin de personnes âgées. Caleb avait 80 ans. 85 peut-être. Et jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, Dieu peut vous utiliser. Madame Clarence qui marche ou presque plus, etc. Elle priait de tout son cœur l'autre jour lorsqu'elle venait de tomber, de faire une chute et de s'ouvrir l'arcade. Elle priait, elle chantait avec moi, elle était contente. Jusqu'au dernier souffle, on peut être utile. Qu'importe notre état physique, Dieu a besoin de nous. Non pas qu'il ne peut pas faire tout seul, mais il a choisi de faire avec nous. Et s'il y a une église de Jésus-Christ ce soir présente, le Seigneur nous appelle, vous appelle, m'appelle. Vraiment me sanctifier pour lui, pour lui obéir, à aimer sa présence au point de rien faire qui fasse obstacle pour pouvoir accéder à lui, d'avoir une foi qui me permette, même si je tombe, de me relever tout de suite pour recourir à ses pieds, lui demander pardon et continuer la marche avec lui pour le servir, pour l'aimer. Que son nom soit béni. Ne tardons pas, et particulièrement pour l'engagement avec le Seigneur. Si je tarde dans mon engagement, il y en a un autre qui va tout faire pour me faire décourager et pour m'arrêter. Tu vois, tu n'es pas encore baptisé après tout, si tu arrêtes. Ce n'est pas trop grave, tu n'as pas dit oui. Personne ne le sait ou en tout cas, c'est resté discret. Jouons pas avec ça. Et si quelqu'un est engagé avec le Seigneur, tenons notre engagement. Moi aussi. Allons jusqu'au bout de notre engagement. C'est ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui héritent du royaume des cieux. Que son nom soit béni et qu'il nous encourage à tous à nous lever pour le servir avec cette assemblée. Sois béni simplement parce que chacun est à sa place et trouve sa place. Merci encore, Seigneur, de nous avoir parlé par ta parole. C'est vrai, Seigneur, que sans toi, on ne pourra rien faire. Sans toi, Seigneur, dans quelques secondes, ce partage sera oublié. Ce partage sera secondaire. Ce partage, Seigneur, sera volé par celui qui ne veut surtout pas qu'on se positionne pour toi. Alors s'il te plaît, Seigneur, dans ta grâce, interpelle par ton Saint-Esprit, car toi seul peux faire une œuvre qui demeure éternellement et que le voleur ne puisse pas atteindre. Alors au-delà de ce que j'ai pu exprimer moi, peut-être avec des sentiments, certes, mais que ce qui est spirituel, ce qui vient de toi, ce qui est de ta parole tout simplement, puisse avoir un impact dans nos cœurs. Merci de nous avoir permis de venir ce soir, de nous avoir gardés sur l'allée. Je crois que tu vas nous garder au retour. Mais Seigneur, que sur ce chemin de retour, on n'oublie rien de tout ce que tu as voulu nous dire. Et que ce temple, Seigneur, soit le symbole de vraiment une alliance avec toi. Ta présence dans nos vies. Ta gloire manifestée dans nos vies. Il y a une quête dans mon cœur et je veux l'atteindre, Seigneur. Ta gloire. Je veux un réveil dans ma vie. Je veux me réveiller, Seigneur Jésus. Qu'il puisse y avoir un réveil dans ma vie, dans mon foyer, dans l'église dans laquelle tu m'as établi, tu m'as placé pour l'instant. Seigneur, que dans chacun de nos vies, on puisse voir des choses extraordinaires. Que celui qui ne fait pas encore partie de ton assemblée, de l'église de Jésus-Christ, à cause d'un blocage, à cause d'une crainte, à cause d'un doute, ou quoi que ce soit d'autre, Seigneur, qu'il soit délivré, qu'il soit courageux pour toi, qu'il soit fortifié par ton esprit, et que tous nous puissions nous lever comme une armée. Non pas qui détruit les hommes, mais une armée qui se tient contre l'adversaire de nos âmes et contre l'adversaire des hommes pour pouvoir te servir. Toi-même, tu t'es fait homme, non pas que tu as été bafoué du ciel, rejeté comme Satan, mais au contraire parce que tu es venu annoncer ta victoire sur la terre, ta suprématie, ton autorité. Tu as voulu aussi venir sur la terre, conquérir le cœur des hommes, avec un beau message, celui de l'Évangile. Oui, Seigneur, c'est quelque chose d'horrible, la croix, mais c'est une puissance. Qu'elle puisse demeurer dans notre cœur, que le beau nom de Jésus-Christ puisse nous donner du zèle pour te servir. Toi qui nous as donné un modèle exemplaire, magnifique, Seigneur. Donne-nous du courage pour choisir ta vie, choisir ton chemin, l'obéissance plutôt que tous les plaisirs du monde. J'ai besoin de ta grâce dans ce domaine. Tu connais mes faiblesses et tu fais pareil pour chacun d'entre nous et tu nous vivifies, tu nous donnes ta force. Accorde-nous cette puissance que tu as promis d'envoyer à tous ceux qui la demanderaient, à tous ceux qui voudront t'obéir, à tous ceux qui voudront devenir des témoins pour ta gloire et pour le salut du monde. Amen.